Il y a évidemment une question éthique qui est centrale dans le design, c'est évidemment de savoir par quelle valeur on va finalement agir sur le monde.
Depuis une trentaine d'années, la psychologie cognitive est au cœur de l'actualité médiatique, scientifique, politique. La mécanique du cerveau est scrutée, disséquée, analysée sous tous ses angles. Parmi ces sujets phares, un terme revient sur toutes les lèvres. Les biais cognitifs. Ce sont eux qui expliqueraient pourquoi nous nous sentons parfois incités à mentir, surconsommer ou adhérer à des avis qui ne sont pas les nôtres. Mais qu'en est-il dans les métiers du design ? Quel est le rôle pour les designers et designeuses ? Aux interstices entre marketing machiavélique et conception centrée utilisateur. Pour mettre en perspective le sujet, nous l'étudions en compagnie de Stéphanie Walter, Hubert Florin et Guillaume Montagu. Dans le premier chapitre, nous croisons les regards pour écrire une définition commune des biais cognitifs. Le deuxième chapitre illustre par des exemples concrets les concepts manipulés précédemment. Le dernier chapitre nous invite à prendre un pas de recul pour questionner l'éthique dans l'utilisation des biais et imaginer les défis de demain. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur notre site internet designmasterclass.fr et sur les plateformes habituelles Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts. Vous souhaitez aller plus loin ? En vous abonnant à notre newsletter, vous allez recevoir une liste de livres, ressources et des bonus. Rendez-vous sur notre site internet. Chapitre 1, biais cognitif, vous n'avez pas les bases. Aujourd'hui, les études en psychologie cognitive recensent plus de 150 biais cognitifs. Et cette liste évolue sans cesse. Stéphanie et Guillaume nous éclairent sur une définition du terme « biais cognitif » dans son sens premier.
Je m'appelle Stéphanie Valta, je suis designer d'expérience utilisateur. Je suis spécialisée dans tout ce qui est Enterprise UX, à savoir les produits et services utilisés par des employés au quotidien. Alors pour moi, les biais cognitifs, déjà, on peut pas s'en débarrasser, il y en a plein. Donc c'est des mécanismes en fait de pensée. Faut imaginer que notre cerveau, au fur et à mesure de la journée, il prend des décisions et énormément de décisions en fait. Ce qui veut dire que si on devait prendre toutes les décisions qu'on prend tout au long de la journée de manière consciente, en fait, on serait très rapidement en surcharge cognitive, on pourrait plus rien faire.
Alors moi, je m'appelle Guillaume Montagu, je suis sociologue de formation. Aujourd'hui, je dirige l'équipe de recherche dans une société de conseil en stratégie et en innovation. Je dirais que le biais cognitif, c'est ce qui nous permet, enfin les biais cognitifs, ça nous permet de fonctionner dans notre vie quotidienne, dans la plupart des cas. Et si tu veux, il y a déjà quelque chose qui me gêne dans le mot, le biais, parce que en fait, il y a déjà une sorte de charge un peu normative. On dit que s'il y a un biais, c'est biaisé, c'est pas droit. Enfin, ça véhicule quand même une idée assez négative d'un truc en fait qui doit être corrigé. Quand tu prends ce qui se fait en sociologie de la consommation ou en économie comportementale, c'est que la plupart des décisions et la plupart des actions humaines, en fait, sont non réflexives. C'est-à-dire qu'on ne réfléchit pas, on ne calcule pas chacune de nos actions. Elles sont la plupart du temps automatiques. Et donc, en fait, dans ce cas-là, de ce point de vue-là, le biais cognitif, il est ultra efficace. Ultra efficace, ultra nécessaire, c'est ce qui permet de vivre et ce qui permet de vivre à peu près convenablement.
Pour comprendre l'émergence du sujet, Guillaume nous propose un voyage dans le temps.
Le biais cognitif, au départ, il appartient, c'est plutôt le vocabulaire qui appartient à la discipline qui s'est mise à l'étudier, donc c'est plutôt l'économie comportementale. D'ailleurs, le mot biais n'est pas venu tout de suite, hein, il est venu d'ailleurs assez tardivement, puisque c'est quelque chose qui est venu en fait comme une critique de l'économie classique. Donc la théorie de l'économie classique te dit que les agents sont rationnels, donc ils raisonnent et puis ils font des calculs coût-avantage et ils prennent des décisions en fonction de ça. Assez rapidement, dans les années 50, un chercheur qui s'appelle Herbert Simon notamment, qui montre en fait qu'on a une rationalité limitée. Donc il n'y a pas un acteur rationnel qui a toutes les infos et qui prend les meilleures décisions à chaque fois, il prend les décisions avec les informations qu'il a, et donc en fait il prend les décisions qu'il peut. Et donc, c'est pas forcément ce qui maximise son intérêt, c'est plutôt, en fait, il raisonne et il prend des décisions avec ce qu'il a sous la main, et parfois, les décisions, elles sont pas géniales. En tout cas, elles maximisent pas toujours son intérêt. Il souligne le caractère limité, en fait, des informations qui sont à disposition, des calculs qu'on peut faire, et puis il montre, en fait, qu'il y a aussi tout un tas de décisions qui sont pas forcément prises dans notre intérêt. Donc, c'est une première critique qui vient de là. Et après, il y a des chercheurs qui poursuivent et qui montrent que il y a même des situations où il n'y a pas que de la rationalité limitée, il n'y a pas de rationalité du tout, puisqu'il y a des décisions qui sont prises sur des manières, de manière quasiment automatique, non réflexive, et c'est là qu'est apparue l'idée de biais cognitif. parce que les travaux qui montrent ça ont un peu dans l'idée que, bah, puisque ce comportement est biaisé, enfin du coup qu'il ne maximise pas l'intérêt, on pourrait le corriger pour arriver à maximiser l'intérêt du coup de la personne qui prend cette décision, ou maximiser l'intérêt d'autre chose, comme par exemple de la société.
Lorsqu'on évoque les biais cognitifs, il est indispensable d'aller à la rencontre d'autres concepts intimement liés. La théorie du nudge, aussi nommée méthode douce en français, a été développée par le prix Nobel d'économie Richard Thaler. Elle se propose d'influencer nos comportements pour le bien commun.
Le nudge, c'est de dire, bah attends, je vais trouver des petits gimmicks situationnels qui vont faire agir les gens d'une certaine manière qui contribuent à l'intérêt général. Alors, évidemment, toute la question, c'est de savoir c'est quoi l'intérêt général, est-ce que tout le monde est d'accord là-dessus, qui prend cette décision. Enfin, tu vois, il y a quand même un côté de, à partir du moment où tu crées une intervention, parce que le nudge est une intervention, quand tu crées une intervention pour changer les comportements de gens, qui plus est, sans qu'ils y aient consenti, eh ben, se pose quand même aussi des questions, tout simplement, de savoir finalement de quel bien on parle.
Stéphanie nous donne un exemple issu du livre Nudge de Richard Thaler.
Dans le livre, par exemple, il donne l'exemple de une cantine et le fait de le placement des aliments dans l'ordre dans lequel ils vont apparaître pour les gamins à la cantine va les inciter plutôt à prendre des desserts ou plutôt à prendre des trucs un petit peu meilleurs pour la santé, des entrées, tout ça. Et donc, le principe d'un nudge, c'est de se dire, bah, en fait, je vais délicatement manipuler, même si j'aime pas trop ce terme, le placement des aliments pour essayer de pousser les gens vers quelque chose donc qui est pour leur propre bien.
Cette théorie comprend cependant une limite forte, celle de la plasticité cérébrale qui nous permet d'être en apprentissage constant.
Le problème du nudge, c'est que justement, en fait, ça prend pas en compte les effets d'apprentissage que les gens vont avoir dans le temps. C'est comme ces petits gimmicks situationnels, la première fois, on se fait surprendre, on n'y réfléchit pas, et puis la seconde fois qu'on le voit, on se dit « tiens, j'ai déjà vu ça », on commence à réfléchir, et en quelque sorte, on met à jour son mode de raisonnement, et le nudge perd en efficacité.
Un autre concept connu entre en scène lorsque l'on aborde le sujet des biais cognitifs, les schémas déceptifs, aussi nommés « dark patterns ». Vous voyez cette petite case précochée en fin de formulaire pour vous inciter à vous inscrire à une newsletter ? Ce sont eux.
Le pendant, entre guillemets, de ça, c'est le dark pattern. Donc ça, c'est la version un peu négative du nudge. Le dark pattern, c'est celui qui, en fait, mobilise à peu près la même chose. Ça fait faire un truc aux gens auxquels ils n'auraient pas consenti, en s'appuyant sur des mécanismes automatiques de leur pensée, de raisonnement. Mais cette fois-ci, qui sert un intérêt privé.
Stéphanie illustre cette pratique.
Donc un exemple typique, ça va être si vous voulez vous inscrire à un site, c'est super facile. Si vous voulez vous désinscrire, par contre, le bouton est caché au fin fond de 72 menus et ensuite vous avez 3 étapes et à la fin de la dernière étape, on vous dit « mais es-tu sûr de vouloir vraiment te désinscrire ? Parce que quand même, tu vas beaucoup nous manquer et on essaie de nous culpabiliser. »
Maintenant que nous partageons ces éléments de langage, observons donc certaines de ces espèces en action. Chapitre 2. Observer les biais en action. À l'échelle de la société, chacun et chacune d'entre nous occupe une place qui lui est propre. C'est depuis ce poste que nous observons le monde. Cette posture peut avoir un impact fort sur nos modes de raisonnement. C'est ainsi qu'Hubert, ancien designer pour l'entreprise Slack, définit les biais.
Je suis designer d'interface. J'ai travaillé pendant plusieurs années chez Slack avant d'arriver chez Pop. Pour moi, les biais cognitifs, c'est des contraintes un peu inconscientes qu'on se pose nous-mêmes, souvent juste par le fait d'être soi-même. Par exemple, je suis un homme blanc, donc j'aurais tendance à créer des choses pour les hommes blancs, malgré le fait que je vais vraiment essayer de combattre ça le plus fort possible. C'est un effort que je dois fournir en plus pour corriger une inclinaison naturelle.
Guillaume nous en dit plus sur ce phénomène, à la frontière entre biais cognitif et social.
Les designers, c'est pas des gens qui sont neutres ou représentatifs de l'ensemble de la population. Ils occupent une position particulière dans la société. Et dès lors qu'ils occupent une position particulière dans la société, ils ont aussi un point de vue sur la société qui vient de cette position qu'ils occupent. Et à partir de là, ils peuvent avoir tendance, mais comme c'est la tendance un peu chez chacun d'entre nous, de concevoir et de se représenter le monde à partir de notre position, et donc à finalement en quelque sorte designer pour des gens qui leur ressemblent.
À l'échelle de l'entreprise, les biais peuvent intervenir de différentes façons, à différents moments. Pour Hubert, ils se manifestent à travers l'aspect culturel de son métier.
Alors les biais culturels, c'est vrai que c'est quelque chose très difficile de comprendre tant qu'on n'y est pas exposé. Par exemple, moi quand je suis arrivé au Canada ou même quand j'ai commencé à travailler un peu aux États-Unis, les gens faisaient des références à des choses qui leur semblent évidentes, dont moi j'avais jamais entendu parler. Par exemple, c'était très simple pour eux de citer Oprah ou je sais pas, des gens de la télé qu'ils voyaient quand ils étaient petits, et ça leur paraissait bizarre que moi, par exemple, j'ai jamais entendu parler d'Oprah. Et ça se retrouve vraiment partout, inséminé partout, que ce soit de la façon dont on va représenter un icône, ou alors l'utilisation d'un emoji, c'est assez courant. Et tant qu'on n'y est pas exposé, c'est vrai que c'est difficile de le comprendre.
Selon lui, c'est donc lorsqu'on se retrouve exposé à un contexte multiculturel que l'on prend conscience de ce biais culturel. Biais qui se retrouve d'ailleurs impliqué tout au long de la conception du produit, depuis la création d'une icône jusqu'aux notes d'humour caractéristiques de Slack.
C'est vrai que, surtout dans le texte, la façon d'écrire, comme à Slack, c'était assez important, le ton qu'on apporte à l'interface, le ton qu'on apporte au texte, au message. C'était assez courant de rencontrer une tournure de phrase ou une expression qui n'aurait pas été comprise dans une autre culture. Et je sais qu'il y avait un très très gros travail des traducteurs, soit d'essayer de reproduire l'intention, même si parfois ça voulait dire on va oublier le fait que ce soit une blague, on va essayer de reproduire l'intention plutôt que l'humour, ou alors parfois c'était vraiment on va trouver une autre blague qui aura la même intention, mais qui aura des références différentes.
D'autres biais nous viennent d'un lexique partagé. L'exemple type, l'icône de la disquette pour représenter la sauvegarde. Hubert nous explique en quoi il s'agit d'un biais de représentation commun.
Pour les icônes en particulier, c'est plus rare parce que y a un petit peu une tendance à utiliser les icônes que tout le monde comprend dès le début. Alors il y aura peut-être des biais qui vont être introduits très très tôt mais que tout le monde adopte. Par exemple, la disquette pour sauvegarder une action, ça avait beaucoup de sens il y a 20 ans, mais maintenant on utilise souvent encore cette icône pour dire sauvegarder, alors que plus personne n'utilise de disquette depuis des années.
Du côté de Stéphanie, c'est dans le cadre des relations interprofessionnelles qu'elle remarque l'utilité d'avoir connaissance de nos biais.
C'est très pratique, entre guillemets, de connaître certains des biais, notamment quand on travaille sur des projets, tout ce qui va être les biais d'effet de groupe ou c'est les biais, il y a des biais qui vont influencer nos stakeholders. Donc en général, tout cela, c'est bien de s'en rendre compte. Parce que ça permet parfois d'expliquer pourquoi un meeting s'est mal passé ou pourquoi à un moment donné on a essayé de pousser quelque chose mais c'est pas passé. Donc avoir un bagage, un minimum scientifique et un minimum de psychologie cognitive aide en fait pas mal au quotidien.
De nombreux biais peuvent intervenir à l'échelle de l'équipe. C'est notamment le cas lorsqu'on tente de changer ou d'améliorer l'existant. Stéphanie nous fait part de son expérience à ce sujet.
L'exemple typique, par exemple, on avait, c'est sur un projet. Donc, je travaille, en fait, pour la Banque Européenne d'Investissement. Et on est en train de migrer un outil qui a été créé il y a 18 ans. C'est important, il y a 18 ans. Donc, imaginez, certaines des personnes à la banque ont toujours connu cet outil. Et donc, on est en train de le migrer vers une nouvelle technologie. Et il y a un an, on voulait couper l'outil à une partie du user group, parce qu'en fait, on avait migré toutes leurs pages. Et ça s'était passé pas trop mal jusqu'à ce qu'on décide d'une date de décommission de l'ancien outil. Et là, branle-bas de combat, on a dû faire face à l'effet de réactance. Donc l'effet de réactance, c'est en fait, c'est une réaction viscérale de gens parce que ils ont l'impression qu'on les prive de leur liberté. Et puis on a aussi un effet de, en fait, les gens n'aiment pas le changement, très très clair. Donc on a un gros biais de statu quo qui est encore une fois une très grosse résistance en fait au changement.
Hubert illustre très bien ce biais de réactance qu'il nomme pour sa part résistance au changement.
Par exemple, on avait fait des tests. On avait vu que au tout début, le texte d'entrée dans Slack, tout en bas, là où on écrit son message, quand on n'était pas dessus, il était vraiment, mais presque, c'est pas invisible, mais il était très, 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 très gris clair. Et donc, les gens, en fait, qui avaient même pas des problèmes de vue, mais qui avaient juste un mauvais écran avec des contrastes un petit peu sortis d'usine, on va dire. Donc, en gros, la plupart des gens qui ont vraiment font pas attention au contraste ou des choses comme ça, voyaient à peine l'endroit du message. Donc, on recevait beaucoup de tickets qui disaient, mais je comprends pas comment on écrit un message. Et on leur disait, mettez le texte dans la boîte de messages, et puis appuyer sur envoyer. J'ai dit, elle est où? Ah, d'accord, vous la voyez pas. Et en fait, ce qui s'est passé très très vite quand on a changé le contraste de cette barre de texte, c'est que instantanément, pratiquement toute la compagnie dit, ah non, c'est beaucoup trop foncé, c'est beaucoup trop criant, on voit plus que ça, non, ça va pas du tout. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'une semaine, en fait, les gens s'étaient habitués à cette barre, et que quand on l'a remis au design d'avant, les gens nous disaient, ah, mais non, c'était pas comme ça. C'est beaucoup trop clair maintenant. Mais c'est vrai que de se rendre compte de toutes ces petites étapes juste pour changer un petit peu de contraste dans une interface, ça permet de vraiment se rendre compte à quel point les gens sont attachés à leurs biais, à leurs habitudes. Et que même un changement positif, le fait que ce soit un changement, ça devient difficile à accepter.
Chez les designers et designeuses, d'autres biais sont à l'œuvre. Souvent, ils sont en lien avec ce que l'on croit savoir faire et ce que l'on croit savoir de nos utilisateurs et utilisatrices.
Tant que conceptrice et concepteur, déjà, on a des biais quand on fait de la recherche. On va tout simplement avoir un biais qui consiste à penser qu'on est moins biaisé que les autres. Parce que, moi, j'ai fait de la psychologie cognitive, je sais tout ça, je suis moins biaisée. En fait, non. Clairement, c'est beaucoup plus simple de voir les biais chez les autres. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant que son équipe soit consciente de pas mal de biais, parce que même si moi-même je peux pas forcément les voir quand je vais créer un guide d'entretien ou quand je vais créer un guide pour des tests utilisateurs, si à un moment donné je donne mon guide d'entretien à un de mes collègues et que mon collègue il est déjà un petit peu plus au fait des différents biais, il peut me dire, ah, attention, est-ce que tu penses pas que cette question, par exemple, tu biaises la personne parce que la façon dont tu l'as posée, ça va peut-être l'induire dans cette direction ou cette direction-là.
Guillaume, lui, décrit aussi une typologie de biais propre à la recherche utilisateur et à la conception.
Parler de quelques biais qu'on peut avoir en recherche, et particulièrement qu'on voit en recherche utilisateur, c'est notamment des biais de confirmation. C'est-à-dire quand on a des hypothèses ou quand on pense quelque chose, on a plutôt tendance à essayer de confirmer ce qu'on pense plutôt que de chercher vraiment comment ça marche. Donc ça, c'est évidemment un biais assez majeur.
Nous avons maintenant vu quels sont les biais à l'œuvre dans notre quotidien. Qu'ils agissent au niveau de la société, de l'entreprise, de l'équipe ou des profils design. Mais comment prendre des actions concrètes face à ces constats? Lesquelles prioriser? Ce sont les questions que nous abordons dans le dernier chapitre. Chapitre 3. Construire une éthique personnelle. Concevoir, c'est agir sur le monde. Selon Guillaume, l'éthique est donc centrale dans le travail de design.
Il y a quelque chose que je trouve très intéressant dans le design. En tout cas, il y a une définition qui avait été donnée, je crois, qu'on attribue à Maturana, le cybernéticien, mais j'ai jamais retrouvé en fait chez lui du coup cette définition, mais peu importe. Enfin, je la trouve intéressante. Ça dit que le design, c'est une conversation à propos de ce qu'on considère avoir de la valeur ou pas. Et donc à partir de là, en fait, si tu admets en fait cette définition du design, tu te dis effectivement, moi designer, je vais façonner, construire, concevoir quelque chose qui va changer la vie en fait des gens, donc qui va venir arriver dans le monde réel alors qu'il n'existait pas avant, qui va donc être une intervention, et que cette intervention, elle va changer le monde. Alors après, évidemment, parfois à petite échelle, parfois à grande échelle, mais il y a quand même cette idée d'agir sur le monde. Et forcément, cette action sur le monde, elle se prend à partir de valeurs, parce que tu vas essayer du coup de faire changer le monde vers ce que toi tu considères comme ayant le plus de valeur. Alors ça peut être pour des motivations philosophiques, hein, des croyances, des valeurs, ça peut être pour des motivations économiques, parce que quand t'es designer et puis que tu bosses pour un agent économique, une grande entreprise ou quelque chose comme ça, forcément le design, il est pas complètement gratuit, hein, il est évidemment subsumé aux objectifs économiques de cette entreprise-là, enfin, en tout cas au moins à cela, peut-être à d'autres, mais au moins à cela, et donc forcément ça oriente ton action de designer.
Dans le secteur de la vente, l'utilisation des biais est monnaie courante. L'éthique de la démarche est à bien des égards questionnable. Stéphanie évoque une différence prégnante entre e-commerce et UX Enterprise. D'un côté, le biais entre dans une dynamique business, dans l'autre, il a dessert.
Je pense que quand on travaille sur certains produits ou services numériques, il y a certaines industries où, à mon avis, on utilise plus de biais que d'autres. Typiquement, dans nos exemples pour la formation, pour le workshop, on utilise Booking, par exemple. Si tu vas sur Booking, sur la page d'accueil, j'ai pas regardé récemment, mais je pense qu'il y a énormément de techniques de manipulation et qui utilisent des biais. Il doit y avoir il ne reste que deux hôtels, un truc en rouge, je sais pas s'il y a des machins qui défilent. Donc, je pense que quand on est dans de la vente, de l'e-commerce, genre Amazon, ils ont énormément d'utilisation de biais sur leur page aussi. On a plus, à mon avis, tendance à utiliser des biais dans la conception d'interface parce qu'on veut essayer de vendre quelque chose à des gens. Quand on est comme moi dans des univers plus entreprises, c'est toujours, je vais pas essayer de vendre quelque chose à mes utilisatrices et mes utilisateurs, mais c'est quand même super intéressant d'être au fait de ces biais-là parce que ça me permet d'expliquer pas mal de réactions que je vois au quotidien et de garder un minimum d'énergie, on va dire, et de pas me dire « Oh mon Dieu, mais c'est trop horrible. J'ai encore quelqu'un qui m'a dit qu'ils n'arrivaient pas à naviguer, mais oulala, on a tout loupé. » Ben, en fait, non, c'est pas si terrible que ça et on peut faire quelque chose.
De son côté, Guillaume questionne les limites de cette notion d'éthique.
La question, c'est de savoir finalement, je pense que c'est surtout en fait de pouvoir réfléchir en fait surtout à la finalité de ce qu'on fait. Parce que tu vois, quand on parle de nudge ou de dark patterns, en fait, on parle encore surtout du dispositif de design. En disant, ça, cette façon de faire, eh ben, comme on dit, c'est un dark pattern, et c'est fondamentalement mauvais, parce que du coup, ça fait faire un truc auquel les gens n'ont pas consenti, ça fait faire un truc. Bon. Et donc, en gros, tu es en train de dire qu'il y a une pratique qui est mal ou qui est à éviter. Et moi, il y avait un exemple dont on a discuté à l'UX Camp Flupa à Grenoble, là du coup, à l'automne dernier, qui était intéressant. Donc, il y avait un type qui présentait sur une des masterclass ou un des ateliers dans lesquels il intervenait, sur lesquels il présentait des trucs, il présentait des différents dark patterns. Alors, il y avait toute une série, une litanie, et il y avait des exemples qui étaient assez intéressants. Il montrait du coup un dark pattern pour afficher, du coup, pour regarder une page de publicité entièrement, avant de pouvoir continuer. Donc tu te dis, ah ouais, les mecs, ils ont utilisé un dark pattern pour faire un truc auquel les joueurs, du coup, n'ont pas consenti. Mais tu peux pas t'empêcher de penser que, bon, finalement, qu'est-ce que ça a vraiment coûté à l'utilisateur, ce truc-là? Bah, le joueur, bah, lui, il peut jouer à son jeu gratuitement. Il a perdu 30 secondes de son temps. Bon, ok, tu peux te dire, tu peux très bien penser que c'est inadmissible, mais tu peux te dire aussi qu'il y a bien pire dans le monde. Et puis, ça permet en fait à la boîte de continuer sur ce modèle économique et de permettre aux gens de continuer à jouer gratuitement. Donc là, tu vois, t'as l'utilisation d'un dark pattern qui, en quelque sorte, a finalement un effet qui est anecdotique. Dans ce cas-là, je peux pas complètement m'empêcher de penser que c'est pas inéthique.
Face à ces constats, comment se forger une opinion sur le sujet? Comment composer avec nos biais? Chez Slack, déboulonner les biais de conception est d'abord passé par le support utilisateur. Comme nous l'explique Hubert.
L'intention, c'était de faire en sorte que tout le monde comprenne la façon dont les utilisateurs utilisaient Slack. Parce que, évidemment, nous, on était biaisés par notre propre utilisation de Slack, qui évidemment était très conséquente, mais très très vite, on prenait des habitudes, on savait comment utiliser les emojis, on savait comment utiliser les liens, mais il fallait qu'on soit constamment rappelé que ben, y a des gens qui comprenaient pas comment utiliser les choses les plus simples que nous on utilisait tous les jours. Donc ce qu'on faisait, c'était qu'on était on prenait une journée dans la semaine, donc n'importe laquelle, on avait le choix, où on se mettait sur l'application qu'on utilisait pour gérer les tickets de support utilisateur. Donc ça, c'était à l'époque, c'était Zendesk. Et en fait, on passait une journée à prendre des tickets et à essayer de répondre. Donc c'était assez intéressant de voir à quel point la compréhension globale de l'entreprise par rapport aux problèmes des utilisateurs était assez profonde. L'intention, c'était de faire en sorte que tout le monde comprenne la façon dont les utilisateurs utilisaient Slack. Parce que, évidemment, nous, on était biaisés par notre propre utilisation de Slack.
De son côté, Stéphanie a créé un atelier sur les biais cognitifs en collaboration avec Laurence Wagner. Elle détaille l'objectif de cette démarche.
Et donc l'idée, en fait, pour essayer de mitiger ces biais parce qu'on peut pas les retirer complètement, c'est de se dire, bah, en fait, si mes équipes sont au courant de plein de biais, elles pourront essayer de voir quand il y a des biais mis en œuvre pendant la passation de la recherche utilisateur ou même déjà quand on va créer les scripts. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, on avait créé un jeu de cartes avec Laurence Wagner où on a sélectionné 52 cartes. Il y en aura un petit peu plus dans la nouvelle version. Je suis en train de le mettre à jour là. Qui sont des biais qui impactent les designers, designeuses et chercheurs pendant la phase de conception, pendant la recherche utilisateur, pendant les réunions. Et donc, le principe de ce jeu de cartes, c'est qu'on a un petit atelier qui va avec, où le but, c'est vraiment de prendre tout le monde dans son équipe et de leur faire comprendre un petit peu, de leur faire prendre en fait conscience des biais qu'on peut avoir ou qu'on peut induire. Donc, en général, c'est un atelier en trois phases. Moi, j'ai une présentation au début de qu'est-ce qu'un biais. On donne quelques exemples. Donc là, les gens en connaissent déjà quelques-uns grâce à la présentation. Ensuite, on met les personnes en groupe et on distribue les cartes. Et en fait, dans chaque groupe, a un nombre de cartes. Et le but pour eux, c'est d'essayer de trouver des exemples concrets des différents biais. L'idée, c'est quand on a des exemples concrets, en général, c'est beaucoup plus simple de mémoriser quelque chose et de le comprendre. Et donc après, en général, on leur demande d'en choisir quelques-uns et de faire une restitution. Donc on a différents groupes qui vont présenter un peu leurs biais préférés. Et donc à partir de là, tout le gros groupe de l'atelier connaît en général 10 ou 15 biais. À côté de ça, on a un aide-mémoire en ligne pour avec les autres cartes. Donc les gens peuvent toujours les consulter. Donc ça, c'est la phase un peu découverte, apprentissage. Et ensuite, dans l'atelier, on a une deuxième phase un petit peu plus ludique où on dit aux gens d'être démoniaque. Donc on donne une thématique et on leur demande de créer l'expérience la plus manipulatrice et la plus biaisée possible. Donc là, c'est un peu la course à essayer de mettre le plus de biais possible dans son expérience. En général, ça part très très loin, ça devient un peu farfelu des fois. Mais l'idée, c'est vraiment ça, c'est de voir jusqu'à où on peut aller si on veut manipuler. Donc là, c'est plus sur de la conception, mais ça peut être aussi sur de la réunion, ce genre de choses. Donc voir jusqu'à où est-ce qu'on peut aller en utilisant ces biais à mauvais escient, entre guillemets. Et donc, en général, c'est plutôt fun, il y a une restitution, on compte le nombre de biais de chaque groupe. Souvent quand c'est en présentiel, on ramène un petit cadeau pour le groupe qui a été le plus machiavélique. Et donc à la fin, on finit par une discussion sur l'éthique, parce que c'est bien sympa d'être super machiavélique et d'essayer de manipuler les gens, mais bon, la vraie question c'est où est la limite en fait sur un vrai projet. Est-ce qu'on va aller jusque là?
Stéphanie et Guillaume reviennent respectivement sur la nécessité de se construire une éthique personnelle en questionnant nos pratiques et nos envies. À chaque personne ses choix propres, inhérents à son contexte de travail, sa culture et ses valeurs.
C'est quelque chose qui, à mon avis, se construit tout au long de sa vie, en fait. Après, si ça intéresse les gens, il y a pas mal de frameworks, en fait, et de templates qu'on peut utiliser autour de la conception éthique. Il y a eu énormément de recherches sur le sujet. Mais après, je pense que c'est aussi essayer de comprendre quelle est son éthique personnelle. Quelle est l'éthique aussi du client ou de l'entreprise pour laquelle on travaille? Je pense que, par exemple, il y a énormément de gens qui disent « Oui, mais si tu travailles pour Facebook et qu'ils font des trucs horribles, faut les quitter. Parce que souvent, on se dit « Oui, les gens qui travaillent pour Facebook ont à peu près la même éthique que Facebook. » Je suis pas convaincue. Je pense qu'il y a des gens qui travaillent pour Facebook parce que ça fait joli sur leur CV ou alors qu'ils n'ont pas vraiment le choix. Mais c'est de se dire aussi, à un moment donné, en général, on a tendance quand même à essayer de travailler pour des entreprises où on est plutôt aligné d'un point de vue éthique. C'est vraiment plus un compas et un curseur personnel. Après, au bout d'un moment, le problème, c'est que même si on a une éthique personnelle, derrière, on a peut-être des gens de différents départements qui vont pousser à faire des choses pas super éthiques. Et puis, c'est pareil, c'est un peu le problème avec ce dont on parlait au début des déceptive patterns. C'est pas illégal. Et en fonction de la personne à qui on va, avec laquelle on va discuter, peut-être que le designer va dire, moi, j'ai aucun souci à cacher un bouton de désinscription super loin et à ajouter plein d'étapes pour que les gens se désinscrivent pas. Et puis ensuite, je pense qu'il y a aussi une question d'incentive. Typiquement, c'est pas trop le cas en France, mais il y a des endroits où les designers ont une partie de leur salaire est en stock option ou ce genre de choses. Si à un moment donné le salaire est dépendant des revenus d'une entreprise, c'est un petit peu compliqué de se dire si j'ai le choix entre utiliser quelque chose qui est pas trop éthique mais qui va augmenter les ventes ou ne pas l'utiliser, bah, la question risque de se poser.
L'éthique personnelle, évidemment, je pense qu'elle est très importante chez le designer, parce que, en fait, justement, le design, en fait, c'est, il y a évidemment une question éthique qui est centrale dans le design, c'est évidemment de savoir, mais en fait, quelle valeur on endosse, et puis, du coup, par quelle valeur on va finalement agir sur le monde. Partant de là, tu as finalement ce mécanisme qui existe, les biais cognitifs, et tu te dis, ah ben c'est chouette, ça veut dire qu'en fait, je peux finalement, j'ai un moyen de faire changer des comportements assez rapidement. Donc avec des avantages, hein, c'est que ça prend bien place en situation, avec des limites, c'est que du coup, ça résiste assez peu avec le temps aux effets d'apprentissage, hein, quand les gens ils se sont fait avoir une fois, deux fois, et puis en fait, ils vont au bout d'un moment, ils apprennent, et ils apprennent à reconnaître, et du coup, ça perd en efficacité. Donc, faut savoir du coup que c'est des interventions qui ont des effets surtout ponctuels et pas des effets pérennes dans le temps. Donc ça, c'est déjà un premier élément à prendre en compte. Et du coup, je pense que pour se construire une éthique personnelle, déjà, c'est pas mal de se dire bon, en fait, de savoir en fait quel est vraiment le champ ou la portée de l'intervention que tu vas faire. Donc, quand tu es designer et puis que tu fais du nudge ou du dark pattern, tu sais que forcément, un utilisateur au bout d'un moment, il va apprendre. Donc, c'est quelque chose qui va marcher sur une première utilisation, une deuxième utilisation, sur un moment d'inattention, mais qui va pas marcher beaucoup plus loin que ça.
La conclusion que l'on peut en tirer, c'est que l'éthique est un sujet personnel. D'après nos invités, construire une éthique personnelle reposerait donc sur une bonne connaissance de nos valeurs, de notre écosystème et des biais cognitifs. Guillaume nous propose d'aller plus loin en questionnant la limite même du sujet.
Et puis, on oublie un truc, c'est que la plupart des biais cognitifs, ils ont été identifiés par une recherche en économie comportementale qui est majoritairement nord-américaine et qui prend place dans des universités américaines de la Ivy League, dont la plupart, on va dire, des travaux se font sur des expérimentations de laboratoire, sur des étudiants, sur les étudiants de ces facs-là. Et donc, on pourrait questionner la généralité, on va dire, de ces biais-là, leur universalité. Est-ce que c'est vraiment des biais qui concernent tout le monde? Par-delà, on va dire, toutes les sociétés, leur structuration, leur culture, etc., etc., etc. Sachant qu'évidemment, par des effets de sélection bien connus, les étudiants de ces universités sont majoritairement des hommes ou des femmes blanches des catégories socio-économiques favorisées aux États-Unis. Donc, au moins, ce dont on peut tirer, c'est que ce sont des biais de ces populations-là. Après, de savoir s'ils sont applicables de la même manière décontextualisé à l'autre bout du monde pour des personnes qui sont issues d'une autre culture, ça n'a jamais été démontré.
Si l'on prend encore plus de distance, demain, des IA pourront débiaiser nos discours, nos pensées ou encore nos inspirations. Quel avenir nous attend face à ces nouveaux outils numériques ?
Les IA qu'on a aujourd'hui, ChatGPT, OpenAI et tout ça, elles sont entraînées pas sur des données qui ont été des articles, des photos, des vidéos, si on parle plus d'IA, de génération d'images et tout ça, qui ont été générées par des humains à la base. Humains qui sont biaisés. Donc ça veut dire qu'on va entraîner des machines sur un dataset qui est déjà biaisé. Il y a eu énormément de choses qui ont été déjà écrites sur le fait que les IA sont sexistes et racistes. Notamment tout ce qui est Midjourney et toutes les IA qui permettent de générer des images, ou si on demande de générer un docteur sans préciser le genre, ça va être forcément un homme. Si on demande de générer a nurse en anglais, qui du coup est en français, c'est plus compliqué parce que infirmière, infirmier, c'est déjà genré, mais a nurse en anglais, bah ça va être pareil, ça va être plutôt une femme. Ou et donc bah on sait déjà qu'en fait toutes ces IA sont juste un reflet d'une société déjà complètement biaisée. Donc ça, moi j'avoue que ça me fait un peu peur, parce que aujourd'hui en fait on a des gens qui écrivent des articles en se basant sur ChatGPT, qui se basent sur déjà des articles biaisés. Donc je me suis amusée avec ChatGPT, justement. Je me suis dit, bon, allez, on va jouer avec. Donc, je suis en train d'écrire ce très gros article sur les biais cognitifs. Et je me suis dit, je me demande comment est-ce que ChatGPT gère les biais cognitifs. Et donc, je lui ai demandé plusieurs fois des exemples de certains biais très, très, très spécifiques. Le truc avec les biais cognitifs, c'est qu'il y en a certains qui sont très, très proches l'un de l'autre. Typiquement, le biais de courtoisie versus le biais de désirabilité sociale sont très proches. Le biais de désirabilité sociale, c'est ce que j'expliquais avec l'alcool. Le fait de dire « je bois pas beaucoup d'alcool » à quelqu'un qui va poser la question dans un entretien, parce que si j'avoue que je bois beaucoup, bah en fait, je paraîtrais moins socialement acceptable que ce que je suis. Le biais de courtoisie, c'est plutôt d'essayer d'être sympa avec la personne qui va poser les questions. Donc si on lui... truc à ne jamais faire, est-ce que vous aimez l'interface ? Même si vous l'aimez pas, vous allez avoir tendance à répondre oui parce que vous voulez pas vexer la personne. Ces deux biais qui sont très très proches et ces deux biais qui peuvent être mélangés en fait, qui peuvent, enfin pas mélangés, mais qui peuvent agir en même temps. Et donc je me suis amusée à demander des exemples. Et j'ai demandé un exemple de biais de courtoisie à ChatGPT, il m'a sorti un biais de désirabilité sociale. Et je me dis, donc, moi je l'ai vu, mais quelqu'un qui connaît pas la subtilité entre les deux, bah vas-y, non, c'est bon, l'exemple il est bon. Donc si maintenant je connaissais pas la subtilité entre les deux et que j'avais utilisé cet exemple pour mon article, bah en fait j'aurais utilisé un exemple qui est faux. Donc j'ai essayé plusieurs biais et puis au bout d'un moment je me suis dit, en fait c'était tout le temps la même chose. Les exemples étaient pas très pertinents et il y a énormément de biais que ChatGPT n'arrive pas à différencier les uns des autres. Du coup, je le corrigeais à chaque fois. Je disais non, c'est pas le biais de ça, c'est ça. Donne-moi un autre exemple de ça. Et puis au final, j'ai quasiment rien réussi à avoir comme exemple pertinent. Donc, mais je pense parce qu'il est entraîné sur des datasets qui sont un petit peu 2021, je crois. Mais après, le truc très très drôle aussi, c'est que du coup, je pouvais voir les données dans les datasets. Par exemple, le biais d'ancrage. En fait, le seul exemple qu'il a été capable de me donner, c'est l'exemple que je vous donnais, c'est l'exemple monétaire. C'est le avoir différents prix et du coup, on est ancré. Il y a énormément d'autres exemples qu'on pourrait donner sur un biais d'ancrage. Et même en essayant de le pousser sur « donne-moi un exemple de biais d'ancrage appliqué dans un dispositif de recherche utilisateur », en fait, il continue à me donner ce type d'exemple-là. Du coup, je me dis, en fait, on a des IA qui sont entraînées sur des articles qui ont pas l'air forcément très précis, qui vont du coup recracher des trucs tout aussi pas précis. En plus, on sait que les IA hallucinent dans le sens où elles créent des choses qui sont pas vraies mais qui leur semblent vraisemblables parce qu'au final, ces modèles-là, c'est des modèles basés sur le langage. C'est un peu comme quand on joue à compléter cette phrase avec le clavier de ton téléphone. En fait, jusque-là, peut-être que les nouveaux modèles vont évoluer, mais les modèles jusque-là de ChatGPT-3, c'était typiquement, il essayait de deviner quel était le mot suivant qui avait le plus de sens dans la phrase. Donc, c'est de ça. Donc, je me dis, à un moment donné, c'est super intéressant, en fait, de jouer avec. Mais par contre, ce qui m'embête, c'est qu'il ne cite pas ses sources. Donc, je crois que la nouvelle version est censée citer ses sources, qui devrait résoudre quelques petits problèmes. Mais après, c'est pareil. Au bout d'un moment, si on commence à avoir des articles écrits avec ChatGPT qui vont citer des sources d'articles écrits avec ChatGPT, on va finir avec une espèce de dilution progressive. Donc je me dis, entre cette dilution progressive et le fait que de toute façon les IA sont déjà entraînées sur des données qui sont complètement biaisées, ouais, c'est pas prêt de s'améliorer.
Pour Guillaume, la problématique se pose également.
Je pense une question qui est assez importante, c'est est-ce que absolument tout dans le monde réel peut vraiment se numériser ? Je te donne un exemple. Moi, j'ai vu des mécaniciens qui diagnostiquer des pannes à partir de la texture de la graisse sur certaines pièces. Et là, tu vois, tu peux te poser la question, mais quel capteur numérique est capable de retrouver cette sensation et cette précision-là ?
Ce serait donc la sensibilité de l'espèce humaine qui nous maintient en vie. Nous, nos biais, notre plasticité cérébrale et notre inclinaison à vivre de nos préjugés. Et si questionner nos biais nous rendait un peu meilleurs ?
Alain, la horde du contrevent, tu la réussiras uniquement, quoi. Uniquement si tu t'isoles. Si tu t'isoles, quoi. Tu comprends ce que ça veut dire isole ?